La densité de moulins à eau en Normandie, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, n'est plus à démontrer. Elle fut considérable. Au début de l'ère industrielle, cette région comptait sur ses multiples cours d'eau de très nombreux moulins qui ont autant façonné le paysage que les châteaux et les églises. Élément paysager incontournable, mais aussi moteur économique essentiel, le moulin à eau a profondément marqué la société rurale normande parce que, dès le Moyen-Âge, elle a jeté les bases d'une proto-industrie. Notamment, on relève en Normandie de manière précoce des formes particulièrement innovantes de moulins. Il faut dire aussi que le milieu naturel de la Normandie a joué un rôle primordial dans la plantation des moulins à eau. Alors, je vais surtout m'intéresser à une petite région du sud du Bessin, dont les conditions environnementales et politiques ont particulièrement favorisé le développement des moulins à eau, qualifiés par les géographes de « Bessin méridional boisé », entre guillemets, c'est Pierre Brunet. Cette région, qui se caractérise effectivement par une couverture forestière assez importante, se situe au nord, aux portes des marais du Bessin, et se limite à l'est et à l'ouest entre les rivières de la Vire et de l'Or, pour finir en gros au sud par la colline de Caumont-les-Ventées. En fait, ma zone d'étude couvre en gros le territoire de l'intercom Balleroy-Molélitry. On fait un peu le tour quand même. Par exemple, on ne peut pas étudier les moulins du Bessin si on n'englobe pas l'étude de Cerisier-la-Forêt. Alors, ma démarche est surtout patrimoniale. Comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste d'histoire rurale et des moulins. Donc, ma démarche est modeste. Il s'agit surtout d'établir un pré-inventaire des moulins de cette région et de rassembler la documentation nécessaire à leur étude historique afin d'enrichir l'épais dossier des moulins à eau en Normandie. Alors, cet inventaire, je l'ai mené parallèlement à quelques prospections de terrain qui ont permis d'identifier d'anciens moulins, voire de constater leur disparition. Et puis, la constitution d'un dossier documentaire composé de cartes, de plans cadastraux, de sources d'archives médiévales, j'ai pu en retrouver, il permettra à l'historien d'approfondir les recherches sur les rôles des moulins dans une petite région laboratoire comme élément structurant de la société rurale. Et puis, cette prospection inventaire pourra également aider l'archéologue en quête de vieux moulins médiévaux à mieux les localiser. Le contexte naturel, la zone d'étude considérée est une région de bois et d'eau, ces deux éléments conjugués ayant largement contribué à l'implantation de nombreux moulins. Si les historiens ont parfaitement défini les conditions naturelles qui ont favorisé l'érection et le développement de moulins à eau en Normandie, les archéologues, de leur côté, ont mis en évidence la nécessité de s'appuyer sur des réseaux de distribution en bois que consommaient en abondance les moulins pour leur fréquente réfection. Or, ce Bessin méridional boisé, campé à l'orée des marais, apparaît comme une région idéale pour les moulins à eau. Les conditions naturelles, je m'appuie un petit peu sur ce qu'avait dit Mathieu Arnoux, qui a justifié la forte densité de moulins en Normandie par les données avantageuses du climat et du relief. Avantageuses, je vais dire, bien sûr, je vais enfoncer une porte ouverte, il pleut en Normandie, nous l'avons tous remarqué, mais c'est quand même plus subtil que ça. Le climat océanique de la Normandie est caractérisé par des pluies régulières, mais peu abondantes. Elles ne sont pas torrentielles. Elles sont surtout bien réparties dans l'année. Pour résumer, il pleut toujours, plus ou moins, on va dire. Et c'est surtout que nous avons aussi un relief peu accentué, constitué de plateaux et de petites collines qui ont donné naissance à un réseau hydrographique dense où les rivières peu encaissées et stables ont favorisé un émagement serré. Mathieu Arnoux, qui a fait quelques articles sur les moulins, surtout pour la période médiévale, il dit « on compte environ une roue tous les 1000 mètres ». On a plusieurs réseaux, un réseau secondaire évidemment, un réseau primaire, j'allais dire, avec les rivières de l'Or et l'Aisle, et puis le secondaire avec les affluents de ces rivières que reçoivent elles-mêmes un réseau de tout petits cours d'eau. Les principales rivières qui concernent notre région, c'est la Tortonne, l'Esque, l'Aurette, qui est la petite Or, et puis la Drôme. Et puis la Tortonne compte beaucoup d'affluents, le ruisseau de la Poterie. Alors le ruisseau de la Poterie, tout petit qu'il est maintenant, il avait un moulin. Il y avait un moulin au début du XVIIIe, il a totalement disparu, c'était le moulin du château. L'ancien château, l'actuel château du Melay avait en dessous un ancien château et c'était ce moulin-là. L'assiette, qui concerne beaucoup ici le Molélitry, bien sûr, puisqu'elle traverse notre commune, le moulin Ouf, le Grill et puis l'Esque. Je n'insiste pas parce que il faudrait presque une carte, un GPS, voilà, pour voir tout ça. En tout cas, en gros, toutes ces petites rivières, et même parfois elles sont vraiment petites, ont quand même eu des moulins au fil des siècles. Tous ces cours d'eau donc, ont alimenté au fil des siècles une multitude de moulins, comme le montre une carte du XVIIIe siècle, particulièrement détaillée qui permet d'établir une première cartographie de la zone d'étude. Hein, cette carte topographie de la Normandie est l'œuvre de Mariette de la Pagerie et date précisément de 1720. Il y en avait partout. Hein, là, on est sur la rivière Delle avec son affluent la Branche. Hein, et vous voyez, on en compte largement plus d'une dizaine de moulins. Voici sur la Tortonne, hein, la Tortonne avec ses affluents l'Esque. Le ruisseau de la Poterie dont je vous parlais, vous voyez, Bois du Mollet, hein, vous avez Château du Mollet, et là, il y avait un moulin. J'ai dit l'Esque, le Merdillon et surtout l'Assiette, hein, comme, qui traverse notre commune. Donc énormément de moulins. Et puis, pour couvrir un peu la zone d'étude au sud, hein, la Drôme, évidemment, hein, qui est un cours d'eau un petit peu plus musclé, j'allais dire, que l'Assiette, hein, et qui a vu, bien sûr, beaucoup de moulins avec aussi ses affluents. Et puis Lorette. Voilà. Donc ça, c'est, j'allais dire, la première cartographie du moulin. Cette carte est exceptionnellement assez détaillée et couvre à peu près notre zone d'étude. Alors, ce qui est frappant, hein, comme l'a souligné Mathieu Arnoux, c'est la densité de moulins sur un même cours d'eau dans un espace parfois resserré. Hein, on le voit sur certaines cartes. Le bois, hein, c'est quelque chose auquel on ne penserait peut-être pas. On pense plutôt au bois pour les bateaux, mais finalement aussi pour les moulins. Les moulins avaient souvent besoin d'être réparés, nécessitaient un approvisionnement en bois régulier et à proximité. Hein, c'est l'archéologue Vincent Bernard qui s'est notamment penché sur le sujet dans le cadre de ses recherches sur les pêcheries du littoral de Basse-Normandie. Il insiste sur le fait que les moulins, je cite, « consommaient pour leur fréquente réfection de grandes quantités d'arbres de taillis, mais aussi d'arbres émondés. Ce petit coin situé au sud du bassin, bien alimenté en cours d'eau et caractérisé par la présence de grandes forêts et de divers bois au Moyen-Âge, était donc particulièrement propice à l'implantation de moulins. » Pour notre coin, un petit peu en particulier, hein, nous, notre région, hein, c'est, j'allais dire, elle tourne autour de ce qu'on appelle la forêt de Bure, hein, forêt des Ducs de Normandie. Elle était formée, donc, je m'appuie sur le coutumier des forêts, rédigé par Hector de Chartres en 1402, qui rapporte les droits et les usages. Les flèches, selon les paroisses, indiquent à quelle forêt on allait se servir. La plus importante, c'est la forêt de Cerisy, dont les limites sont demeurées à peu près stables depuis le Moyen-Âge. Vous avez le bois du Tronquet, du Vernet, hein, qui ont subi depuis beaucoup de gros défrichements à partir du XVIIe, le bois du Mollet, largement défriché par la communauté des potiers, hein, entre le XIe et le XVIIIe siècle. Le bois de Kergessal à Vaubadon a totalement disparu, n'est-ce pas, monsieur le maire? Puisqu'en fait, maintenant, la carrière, voilà. Et puis le bois de Courtelle aussi a disparu. Alors, les usagers des moulins pouvaient donc s'approvisionner en bois à partir de larges surfaces forestières et en plus, c'était localisé à portée de main. Alors, si le coutumier des forêts, hein, que j'ai cité tout à l'heure, hein, 1402, fait régulièrement mention de petits travaux divers de menuiserie, dont la fabrication de charrettes, d'échelles, de râteaux, etc., rares sont les allusions à la réfection de moulins. On trouve néanmoins un passage très intéressant qui mentionne la réparation d'un oc ou no, hein, c'est le terme local, hein, qui désignait en moyen français le conduit qui amène l'eau à la roue motrice. Hein, le coutumier nous apprend que les habitants de Saint-Quentin avaient l'habitude de tenir des ateliers de charronnerie et de hucherie à la lisière de la forêt de Cerisy et avaient droit de prendre du bois en échange de rentes et de services rendus à la fée ferme de Saint-Quentin. Ils étaient tenus, entre autres, de, je cite en moyen français, de cocher le nœud du moulin de la dicte fée ferme, c'est-à-dire de le réparer, tout simplement. Alors, c'est pas toujours aisé, hein, de retrouver des devis de réparation. Là, c'est juste un point de comparaison, ça ne concerne pas notre région, hein, mais c'est un devis qui concerne des travaux de réparation du moulin de Peine de Pie dans le Calvados. Et il s'agit exactement la même chose que le passage que je vous ai cité au Moyen-Âge, de réparer le noc du moulin, hein, c'est-à-dire c'est le conduit qui amène l'eau à la roue motrice et c'est un document trouvé par hasard. Michel Desflers, alors qu'il faisait des recherches sur les navires, est tombé sur ce document. Hein, il vient des archives du Calvados. C'est le tablionnage d'Honfleur. Les documents datent de 1618. Alors, je citerai juste hein, le passage. Hein, il fait écho, bien sûr, au passage du coutumier des forêts. Hein, donc, alors, c'est intéressant hein, pour les spécialistes des moulins. Il est question qu'un certain Clément Langlois, du métier de charpentier de maison et de moulin, construisent le nouveau noc du moulin de Peine de Pie et qu'ils quérissent le bois nécessaire et la planche bonne et suffisante de chêne sans gélure ni aubier. La réparation s'élèvera au coût de 80 livres tournois et de 30 sols de vin. Alors l'autre contexte hein, qui a favorisé le développement des moulins, le contexte politique, les abbayes, les seigneuries. Alors le contexte hein, a été favorisé par surtout la fondation de l'abbaye de Cerisy, par les ducs de Normandie au début du XIe siècle, ainsi que l'émergence de puissantes seigneuries, hein, ça sera celle des Bacons du Mollet, hein, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui ont largement contribué au développement des moulins. Alors pour l'abbaye de Cerisy, hein, si au Moyen-Âge le moulin est lié à un fief et sa position au statut du seigneur de ce fief, Mathieu Arnoux a bien montré que leur installation remontait souvent avant le milieu du XIe siècle, c'est-à-dire avant que ne se mettent en place les seigneuries. Notre zone d'étude offre un bon exemple et on a la chance d'avoir deux chartes ducales qui se rapportent précisément à notre contrée. La plus ancienne nous vient de Robert le Magnifique, hein, elle date de 1032, elle concerne la fondation de l'abbaye de Cerisy. Robert donne en dot à l'abbaye sur son propre domaine l'emplacement du monastère de Cerisy avec les églises et les dépendances dont les moulins, Molène d'Inis, hein, c'est une charte évidemment en latin. Au moment où on se pose des questions sur que devient le latin, bah, écoutez, c'est quand même très utile de pouvoir lire le latin, sinon bah, nous historiens, surtout pour la période médiévale, on serait totalement perdus. Il y a les moulins, il y a les dîmes fournies par le bois d'Aile, et puis surtout la forêt comprise entre l'abbaye et la rivière de la Drôme. Hein, donc cette charte est intéressante parce qu'en fait, déjà elle mentionne hein, des moulins dès avant même le milieu du XIe siècle. Hein, ensuite, et puis c'est surtout qu'on a des indications géographiques, elles sont peut-être peu précises, mais on peut en déduire qu'il y avait déjà des moulins sur une portion de l'Esque hein, qui coule juste à côté de l'abbaye et surtout sur la Drôme, hein, puisque la Drôme est citée. Et puis surtout, on peut quand même identifier la grande forêt hein, qui est située voilà, entre l'abbaye et la rivière de la Drôme, c'est évidemment l'actuelle forêt de Cerisy. Alors la seconde charte, hein, de l'abbaye, c'est 10 ans plus tard, en fait, Guillaume le Bâtard, qui n'était pas encore le conquérant, en 1042, il confirme les positions offertes 10 ans plus tôt par son père, et puis il va augmenter le patrimoine de l'abbaye, hein, en donnant la paroisse de Litry et ses dépendances, et donc il y a des moulins. Donc on peut être sûr que déjà sur l'assiette à Litry, hein, on est obligé, hein, en histoire, désolé monsieur le maire, de parler du Mollet et de Litry. Et là, je vais contribuer à refaire la scission. Et ils n'ont pas tout à fait la même histoire, hein, ces deux paroisses. La paroisse du Mollet est plutôt liée à la seigneurie des Bacons du Mollet, et Litry est liée à l'abbaye de Cerisy. Comme quoi, c'est amusant. Hein, donc, en fait, il y a donc déjà des moulins, et puis surtout, on mentionne aussi la donation hein, sur la grande forêt d'une portion qui s'appelle le bois de la queue. Ça, les gens ne le savent pas beaucoup, c'est le bois l'abbé maintenant. Heureusement qu'on a, j'allais dire, changé le nom, parce que bois de la queue, on ne sait pas la queue de qui, d'un loup peut-être, Jean-Marc. Hein. Ça pourrait être ça. Donc voilà, des moulins hein, dès le XIe siècle. Alors là, cette seconde charte hein, permet, voilà, je vous ai dit, hein, d'identifier, en tas de supposer qu'il y avait des moulins qui traversent Litry, hein, parce qu'on a des toponymes, le Mont Fréard, hein, c'est un toponyme du Mollet Litry, le ruisseau Morel, tout ça existe encore hein, sur les cartes IGN très détaillées. Hein, voilà. Alors, il n'est pas impossible que nous ayons affaire à la restitution d'un domaine usurpé au temps des Vikings. Pour ceux qui me connaissent, je suis spécialiste des Vikings. Et comment j'ai pu remettre des Vikings là-dessous? Eh bien, en fait, quand vous avez un domaine comme ça, qui appartient à un duc de Normandie, vous pouvez être quasiment sûr, et ça, c'est Lucien Musset qui l'a démontré, que ce domaine a été usurpé du temps des Vikings et que les ducs vont progressivement redonner ce patrimoine aux abbayes. Alors, il y a un bon exemple, hein, c'est l'abbaye de Saint-Père dans le Cotentin. Le domaine, l'abbaye a été détruite lors des invasions vikings et les ducs, comme par hasard, ce domaine se trouve dans le patrimoine ducal. Comment il est arrivé là hein, hein, donc par héritage. Et en fait, c'est Robert le Magnifique qui va redoter. Hein, il va faire tout un programme, j'allais dire, de remusculation des abbayes. Et il va, tant bien que mal, c'est pas évident, hein, redonner les anciens domaines. Alors, dans le cas de l'église de Saint-Père, l'abbaye de Saint-Père n'a pas été reconstruite, mais tout le domaine a été donné à l'abbaye de Mont-Saint-Michel. Dans le cas ici de Cerisy, l'abbaye a été reconstruite. Hein, parce qu'en fait, nous sommes sur une abbaye beaucoup plus ancienne, 6e siècle, hein, construite, fondée en tout cas par Saint-Vigor, hein, c'est l'abbaye Saint-Vigor de Cerisy, détruite aussi par les Vikings. Et là, le duc la refonde en 1032. Hein, et donc, alors, pour nos moulins, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on peut imaginer, donc, comme le domaine de Saint-Père, que les ducs ont cherché à restituer le domaine foncier initial. Cette hypothèse implique que les moulins, comme le disait, suggéré Mathieu Arnoux, n'ont pas forcément été mis en mouvement par les ducs et qu'au contraire, ils constituent un héritage carolingien de l'ancienne église. Alors, je vais sauter dans les années. Hein. Toujours est-il que suite à la donation de Guillaume, l'abbaye va conserver très longtemps des liens avec la paroisse de Litry, dont des moulins. Voici un extrait du tablionnage de Bayeux qui nous offre des informations sur un moulin, celui de Creveuil, qui appartenait à l'abbaye pour être fiefé. Il s'agit d'un contrat qui est daté de 1642. Qui est établi entre l'abbé de Cerisy et un certain Charles de Montfréard. Les Montfréard, c'était une famille tout à fait locale, très connue ici sur Litry. Et donc ce contrat détermine les clauses de location du moulin et de ses héritages. Il y a d'autres liens entre l'abbaye de Cerisy et le territoire de ce bassin méridional boisé, qui pourrait être mis en lumière par le dépouillement systématique du tablionnage de Bayeux, mais aussi des chars de l'abbaye. Si beaucoup d'entre elles ont disparu lors du bombardement de Saint-Lô en 1944, malheureusement, qui détruisirent toutes les archives, il en existe des inventaires et des transcriptions partielles effectuées au XIXe siècle. Et surtout, il y a encore tout un fonds relatif à l'abbaye de Cerisy qui est conservé aux archives départementales du Calvados. Alors, je ne prendrai qu'un seul exemple au sein de ces chartres de l'abbaye de Cerisy. Elle concerne Cormolin et la rivière de la Drôme. L'abbaye de Cerisy détenait plusieurs possessions à Cormolin. Une charte datée de 1248 nous apprend que le chevalier de Saint-Pierre avait reçu des religieux, je cite, « l'eau de la Drôme depuis le pont de Cormolin, qui s'appelle le pont Hébert, jusqu'au pont de Montrebeau, pour y pêcher et y faire un moulin ». Donc, vous voyez, la chronologie des moulins est quand même complexe. Il peut y avoir d'anciens moulins carolingiens, certainement, en héritage, que les ducs, bien sûr, récupèrent, entre guillemets. Mais évidemment, on va en mettre certainement en mouvement de nouveau. Et l'abbaye a certainement joué un rôle très important dans cette région. Alors, il n'y a pas simplement les abbés qui ont joué un rôle important. J'ai parlé des seigneurs Bacon du Mollet. Et en fait, il ne reste plus rien du château du Mollet. Le vestige qui reste, c'est la petite chapelle, vestige d'un château certainement c'est un château à Motte, 11e siècle, il a été détruit certainement vers 1365 à peu près. Après, il est tombé en ruine et après, ça a servi de carrière pour faire les maisons, certainement. Beaucoup de maisons, peut-être, au Mollet ont été faites avec les pierres du château des Bacons du Mollet. Donc, c'est une famille très puissante qui a vraiment une emprise, en tout cas, sur le Bessin, qui était vraiment très, très grande. Donc, en fait, il faut vraiment étudier, en tout cas, les chartes qui restent de cette famille pour pouvoir retrouver, bien sûr, des mentions de moulins. Mais on n'a pas toujours de la chance et on a de la chance. Entre les destructions des archives de Saint-Lô, là, il y avait le chartrier des Bacons du Mollet. Il a été détruit, certainement, lors de l'occupation en 1940, malheureusement. Et ce chartrier, ça devait être extraordinaire, j'imagine, à consulter. Il y avait quand même toutes les chars de la famille Bacon du Mollet, et c'était énorme. Alors, heureusement, est passé par là un certain Charles Durand, un instituteur qui a écrit sa monographie sur la commune du Mollet. On a de la chance, et c'est l'une des plus grosses monographies des instituteurs. Les instituteurs faisaient leur compte rendu de fin d'année, leurs travaux de fin d'année, de fin d'études, et ils faisaient des monographies. Ils ont choisi, beaucoup ont choisi, en tout cas, d'étudier des villages. C'est comme ça qu'on a plusieurs monographies. Il y en a une pour 100, je crois qu'il y en a une pour le Tronquet. Alors, toutes les communes, malheureusement, n'ont pas bénéficié de monographies, mais en tout cas, nous, on en a une, et c'est la plus importante. Elle fait à peu près 165 pages, et ce Charles Durand a eu accès au chartrier. À cette époque-là, il existait, il était conservé par les descendants, les quelques descendants des Bacons du Mollet, et donc il a pu prendre des notes, mais j'allais dire maladroite peut-être, il a cherché à transcrire, on n'a pas forcément le texte d'origine, mais c'est déjà bien que d'avoir les notes de ce monsieur. Alors c'est surtout que il a recopié le texte de la succession de Jeanne Bacon du Mollet. Jeanne Bacon du Mollet, une femme, une sacrée femme d'ailleurs, si j'oserais dire, du Moyen-Âge, qui est à la tête d'un héritage considérable, un patrimoine énorme, qui est situé au corps du Bessin. Et ce patrimoine, on en sait la teneur par le texte de la succession qui date de 1377. Et Jeanne, c'est la dernière descendante en ligne directe des Bacons du Mollet. Donc en fait, après, ça va être divisé en trois lots. Et dans ces trois lots, vous avez, mais de tout, c'est en pagaille, c'est pas évident à lire. Vous avez donc le patrimoine, j'allais dire, juridique. On est au Moyen-Âge, on a des fiefs, on a des droits. Beaucoup de seigneuries sont léguées. Et puis, il y a un patrimoine foncier et dont un patrimoine immobilier composé de 4 manoirs, 14 moulins et 5 fours. Moulin de la Porte, moulin de Durdan, moulin de Touvet, moulin de Blé, moulin du Saubénard, Moulin, il y a un moulin à Bernès, il y a un moulin à La Quiaise, moulin à Culblé, je ne sais pas où il est, moulin à Sané, le moulin des Louveaux. Hein, pour les gens du Meulé-Littry, ça nous dit quelque chose. Il y a encore un lieu-dit des nouveaux. Le moulin souverain à Sens, le moulin à Drap, le moulin de Rubercy. Hein, donc c'était un patrimoine assez, assez considérable. Alors, le problème, c'est comment identifier, j'allais dire, hein, tous ces moulins. On peut quand même identifier certains fiefs dont dépendaient certains moulins. Il y a quelques exemples éclairants. Les Bacons du Meulé possédaient le fief de la Motte-Blagny, dont dépendait l'arrière-fief de la Quiaise. Tous deux étaient assis en la paroisse de Notre-Dame de Blagny. Notre-Dame de Blagny est maintenant, fait partie maintenant de Sainte-Marguerite d'Elle. On est sur, vous voyez comme quoi les réformes du territoire, ça fait longtemps qu'on les fait. Hein. Sainte-Marguerite d'Elle composée de Notre-Dame de Blagny et de Bennes. Hein. Donc, ils avaient donc un fief à Notre-Dame de Blagny. Ce fief, hein, on a quand même quelques informations sur ce fief, qui est appelé la Quiesse-Bagny, appartenait au comte de Cester, descendant des ducs de Normandie, qui le donnèrent en 1126 à Guillaume Bacon du Meulé, et qui resta la propriété de la branche d'y reste des Bacons jusqu'à la disparition de Jeanne en 1376. On y trouve deux moulins, l'un appelé Moulin Bacon de Blagny, dans le texte de la succession, qui dépendait du château de la Motte-Blagny. Hein, ce château, c'est une demeure fortifiée, hein, érigée sans doute sur une motte au XIe siècle, qui appartenait au seigneur Bacon du Meulé. Et le second moulin faisait partie du domaine de la Quiaise, qui figure dans les biens de Jeanne Bacon. Outre le moulin, on a un manoir, une chapelle, un étang. Hein. Alors, ce moulin, on ne va pas dire qu'il a survécu tel quel depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant. On sait bien que les bâtiments ne peuvent pas être d'origine. Mais en tout cas, il y a un moulin de la Quiaise hein, qui a encore été en fonction jusqu'au XIXe siècle. Hein. Il n'y a pas de continuité architecturale du bâtiment, bien sûr, mais une continuité au niveau de la localisation et de la fonction. Hein. Il s'appelle toujours, vous voyez, là, ce sont des archives départementales du Calvados, il s'appelle toujours moulin de la Quiaise. Alors, il y a deux autres moulins hein, qui ont dû appartenir au Bacon du Meulé, même s'ils ne figurent pas dans le texte de la succession. Il s'agit des moulins de Couvin et de Planquerie, mentionnés sur les cartes du XVIIIe siècle sous l'appellation fort explicite de moulin Bacon. Hein, par-delà les siècles, la toponymie a donc conservé le souvenir des seigneurs Bacon du Meulé. Jeanne Bacon, or, on sait que Jeanne Bacon avait des droits sur le fief de Couvin. Hein, comme vous voyez en haut, il y a un moulin qui s'appelle Bacon. Il y a le moulin à Drap, juste avant. Vous avez le moulin Bacon. Donc, elle avait donc des... Je suis perdue sur Couvin, voilà. Et puis, les liens avec Planquerie. Hein, elle possédait l'hommage de la seigneurie de Planquerie. Et les liens entre les Bacons du Meulé et Planquerie sont anciens. Hein, on a un certain Roger, seigneur du Meulé, qui a fondé en 1148 une commanderie des Templiers, dit la commanderie de Baugie. Et plus tard, en 1222, une charte de l'abbaye de Cerisy nous apprend que Guillaume Bacon du Meulé échangea avec l'abbé 97 perches de la rivière de la Drôme pour y faire un étang à Planquerie. Et vous voyez, hein, c'est une carte du 18e, dans cet étang, il y a bien un moulin, et il s'appelle le moulin Bacon. Alors, il y a d'autres seigneuries hein, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, hein, et ça me permet de faire la transition. Voici un moulin, le moulin des Essarts, à la Bazoque, par exemple. Le moulin des Essarts est lié au château des Essarts, hein, qui est maintenant remplacé par une ferme. Hein. Ce château était tenu au XIVe siècle par la famille Thésard. Hein. On sait qu'un certain Louis Thésard, né dans le château, fut évêque de Bayeux. Et voici encore, il s'appelle toujours Moulin des Essarts. Et il est, ça serait, c'est un lapsus. Et il n'est plus en activité, mais bon, le bâtiment est toujours là, magnifique. Alors, identification, chronologie, typologie, hein, il y a toujours, évidemment, c'est pas évident, il y a toujours un problème d'adéquation entre un moulin qu'on va trouver au XIIe siècle et puis son prolongement au XIXe. Hein. Il est évident qu'il n'y a pas de continuité au niveau du bâtiment, hein, qui a évidemment subi des dégradations au fil des siècles, il a pu être reconstruit. Le moulin, ici, hein, dont vous parlera Agnès-Marie pour sa visite commentée, ce moulin est mentionné au XVe siècle, mais nous ne sommes pas dans un bâtiment du XVe siècle. Nous sommes dans un bâtiment hein, 18e, peut-être pour les parties plus anciennes, mais plutôt 19e. Hein, donc évidemment, c'est reconstruit, mais on est toujours au même emplacement. C'est toujours ça qui est quand même très intéressant. Alors, sur ce problème d'identification, hein, il n'est pas toujours aisé d'identifier les moulins figurant dans les textes anciens ou sur les cartes du XVIIIe, avec les moulins encore en activité au XIXe siècle. Sommes-nous bien sûr d'avoir affaire au même moulin? Par ailleurs, certaines localisations de moulins mentionnées dans les documents médiévaux sont difficiles à reconnaître. Vous avez pu le voir dans le texte de la succession de Jeanne Bacon. Il y a plusieurs moulins. Pour l'instant, j'allais dire pour l'instant, hein, parce qu'il faut dépouiller beaucoup de documents encore, je n'ai pas pu encore les localiser. Inversement, un moulin peut être parfaitement identifié même en ruine, mais il n'est pas toujours facile à retrouver ses origines dans les sources anciennes. Et tous les moulins ne sont pas médiévaux. Voici des moulins neufs. Hein, voilà un bon exemple, le moulin neuf à la Bazoque. Hein, sur la carte du XVIIIe siècle, il est déjà mentionné un moulin neuf. Alors, dans quelle mesure le moulin est neuf, hein, ça serait une question. Celui-ci date du début du XIXe siècle. Hein, il se situe donc à la Bazoque. Alors, quelques exemples. Hein, j'ai essayé de prendre quelques exemples éclairants. Sur Sang, hein, la commune de Sang, hein, qui est juste à côté du Molé-Littry. Le texte de la succession de Jeanne Bacon fait état de quatre moulins. Le moulin de la Porte, sous-entendu le moulin de la Porte du château, qui était effectivement sur la paroisse de Sang. Hein, le château des seigneurs Bacon du Molé était à cheval, hein, sur le Molé. Hein, et puis sur le parc à gibier était sur la commune de Sang et le moulin était sur la commune de Sang. Il est question d'un moulin souverain, on ne sait pas ce qu'il en est, et il y a un moulin à drap dont il est impossible de savoir si l'un des deux moulins correspond au moulin de Sang mentionné sur le cadastre napoléon de 1824. C'est celui-là que vous avez en haut. Hein, ce moulin il est tout simplement appelé le moulin de Sang. Il était encore en activité à la fin du 19e siècle. Il a fait l'objet d'un règlement par les ingénieurs des ponts et chaussées en 1881 et 82. Et à l'occasion de leur inspection, des plans ont pu être dressés. Hein, il y a des dossiers de moulins pour le 19e siècle, qui sont très complets et très intéressants, puisque c'est la première fois qu'on a des plans aussi détaillés. S'agit-il, ce moulin de Sang, est-ce le même, en tout cas au moins l'emplacement, hein, qui est mentionné dans la charte de fondation du temple de Bogie en 1148. Hein, il y a déjà un moulin qui est mentionné à Sang. Parmi les nombreux biens donnés par Roger Bacon, hein, aux Templiers et d'autres seigneurs, on trouve en effet une rente en orge à prendre sur le moulin de Sang. Voilà. Alors, il y a aussi un autre moulin, il y a un autre exemple difficile, hein, il est question d'un moulin des Touvets, hein, T-O-U-V-A-I, S, il n'y a plus de moulin, mais le toponyme Les Touvets existe encore, hein, sur la commune de Sang. Le moulin de la Porte, eh bien, c'est le moulin du Breuil, en fait, hein, c'est exactement le même moulin. Hein, c'est par le cadastre, hein, qu'on arrive à savoir, à localiser le moulin de la Porte du château, hein, tout simplement parce que sur les cadastres, il faut consulter le cadastre de Sang et le cadastre du Molé. Et là, on a le bief, en fait, était sur le Molé. Il a été détruit dans les années 70, très tardivement, et le moulin, lui, était déjà détruit à cette époque-là. Si vous allez actuellement sur les lieux, parce qu'on peut sans problème, hein, repérer la localisation, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Alors, je passe à un moulin très intéressant qui va beaucoup passionner le président de l'intercom Balleroy le Molé-Littry, puisqu'il est maire de Vaubadon. Le moulin de Vaubadon, eh bien, celui-là est bien mentionné, hein, sur les cartes du 18e, hein, et puis il était en activité au 19e siècle. Hein. Comme bien d'autres moulins, toute la difficulté est de reconstituer son histoire au-delà du 18e siècle. On a des ruines, hein, de ce moulin, ainsi que, voilà, j'ai retrouvé quand même tout un dossier, hein, sur ce moulin, est très intéressant. Hein, ce dossier date de 1855. Le moulin était tenu par un sieur Marc. Hein, et en 1855, les ingénieurs des ponts et chaussées proposent au propriétaire du moulin, le sieur Marc, de rédiger un projet de règlement du dit moulin et de construire un déversoir. Ça, c'est très intéressant ce que va dire notre meunier en 1855. Il invoque l'ancienneté du moulin. Hein, le rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées rapporte ainsi ses paroles. Suivant M. Marc, le moulin a été construit par le seigneur de Vaubadon. Il remonte à une époque antérieure à 1790. Il a par cela même une existence légale. Hein, c'est intéressant, cette conscience, hein, de ce meunier, hein, sur l'ancienneté de son moulin. Alors, l'ancienneté du moulin est au moins prouvée par les cartes du 18e où il figure, hein, comme vous voyez. Il est sur des cartes du début 18e. Hein, mais pour l'instant, eh ben, dans les recherches, j'ai pas encore trouvé le comment, le pourquoi de ce moulin. Il n'est pas impossible qu'il appartienne aux Argouges, hein, une branche de la famille d'Argouges, des Bacon du Molé, sont devenus seigneurs de Vaubadon à partir du début du XVIe siècle. Hein, alors, il faut encore faire des recherches, tout simplement, dans les papiers d'Argouges pour retrouver des sources de ce moulin. Alors, j'en arrive bientôt à la fin. D'autres moulins, une histoire à écrire, hein, parce que j'ai pas pu, bien sûr, je présente que des exemples, hein, je pouvais pas présenter un inventaire complet. Hein, vous avez au Tronquet, à Catillon, des moulins mentionnés déjà dès le 18e, le moulin Ouf, au Tronquet, et il y avait encore les bâtiments, Sainte-Marguerite-d'Elle, hein, énormément de moulins pour lesquels il y a beaucoup de recherches à faire. Hein. Si les étudiants se passionnaient pour notre région, ils seraient tout à fait les bienvenus. Alors, une petite, mention sur la typologie. Sur la typologie des moulins, très variés, hein, les moulins à grains évidemment, hein, blé, seigle et sarrasin, hein, et puis les moulins à foulon ou à drap, les moulins à temps, moulins à papier. Alors, très intéressant, Le moulin à huile, en fait, hein. Alors c'est le moulin de Canebert. Il y avait deux moulins à Canebert. Un moulin à grains qui est mentionné en 1443. En tout cas, il est médiéval. Hein. Et puis, il y avait un autre moulin juste à côté. Hein. Donc, vous voyez, une grande variété de moulins. Mais ça ne nous surprend pas. La Normandie est assez connue depuis les sources très anciennes, hein, sur une variété de moulins. Alors, en conclusion... Hein, l'objectif serait de réaliser un inventaire des moulins avec un dossier documentaire pour chaque moulin. Hein, voilà, c'est ce qui s'appelle avoir du pain sur la planche, mais nos agents du patrimoine vont me rejoindre dans la tâche. Et puis réaliser surtout une cartographie assez fine des moulins, hein, carte archéologique, patrimoniale, avec les moulins qui ont disparu, mais on arrive encore parfois à les localiser, les moulins en ruine, le moulin de Vaubadon par exemple. Il y a encore des bâtiments existants comme le moulin des Essarts, il n'est plus en activité, mais le bâtiment existe encore. Et puis des moulins en action, ben, il n'y en a pas beaucoup, les moulins en action. Hein. C'est celui-là, celui du Mollet-Littry. Je crois que j'ai cru qu'à la Bazoque, je ne sais plus, il y aurait quelqu'un qui a remis une roue à son moulin. À Cormolin, je me trompe, mais c'est un moulin privé. Eh bien voilà.